Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Whoopiness, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
Merci, 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 merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on déroule le tapis pour Les Sopranos, la série culte de HBO. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. La semaine dernière, on vous a parcouru la galerie des personnages principaux. Aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la caméra pour en apprendre plus sur le papa de la série, David Chase. Mais pas seulement, on parlera aussi de toute l'équipe qui a contribué au succès des Sopranos, les scénaristes, les réalisateurs, les producteurs et évidemment le casting. À mes côtés, pour explorer les coulisses de la série, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors on a dit, derrière les Sopranos, il y a d'abord un homme, David Chase. David Chase, de son vrai nom, David Di Cesare. Avant de créer les Sopranos, David Chase a été scénariste pour la télévision pendant plus de 20 ans. Il était vraiment très connu dans ce milieu-là, avec un style d'écriture bien à lui. Avant même de parler de ce qu'il a fait au niveau professionnel, je pense que c'est important de parler de ses origines.
Ben oui, il a des origines italo-américaines. Voilà, il grandit au New Jersey. En gros, les Sopranos, c'est sa vie, quoi. C'est ce qu'il a pu contempler. Mais bon, ça rappelle ce que Martin Scorsese a pu faire également dans un film comme Les Affranchis, où finalement, ce qu'il nous met en scène dans les premières minutes, c'est aussi la vision que lui avait de ces quartiers-là quand il était gamin, quoi, et de ces wise guys qui voyaient aller à leur petit business, quoi.
Ouais, puis c'est une personne qui a grandi en fait avec des parents extrêmement on l'a dit dans l'épisode précédent, Livia, la mère de Tony Soprano, c'est sa mère en fait, hein, littéralement. C'est quelqu'un d'extrêmement toxique pour lui, et son père, c'était quelqu'un qui avait un énorme problème de colère, on va dire, et ce qui ressemble aussi à Tony, quoi, finalement. Donc, de là à dire que Les Sopranos, c'est sa psychanalyse à lui, il y a presque qu'un pas, quoi. Mais oui, c'est quelqu'un qui a grandi dans ces milieux-là et qui sait de quoi il parle, en fait, quand il parle de pas seulement, en fait, du milieu, hein, italo-américain, mais aussi de l'idée de devoir travailler, sur soi, en fait. Probablement à travers une thérapie, il n'en parle pas de cette manière-là forcément, mais en tout cas, je pense que ça fait sens, quoi. Et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé pour la télé. Donc du coup, qui a travaillé sur des séries que, bon, on connaît pas trop, hein, nous ici, comme Rockford Files, ce genre de choses, quoi. Et qui, au moment justement où il lance Les Sopranos, en fait, où il veut faire Les Sopranos, il veut sortir de la télé. C'est-à-dire que, tu l'avais dit dans le premier épisode, il y avait cette idée que Les Sopranos, à la base, soit un film. Sur ce sujet, en fait, qui est, comment dire, un chef mafieux, en fait, qui part en thérapie, quoi. Et je sais plus quelle personne lui a suggéré d'en faire une série télé, en fait. Et une série télé qu'il a proposée à des networks, en fait, américains classiques, hein, Fox, ABC, tout ça. Et en fait, ils ont tous plus ou moins refusé parce qu'effectivement, ça rentrait pas en ligne de compte. Mais lui, même espérait déjà que HBO dise non aussi pour pouvoir, en fait, faire des Sopranos un vrai film de cinéma. C'est-à-dire qu'il le voit comme ça, quoi. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et quelque part, il a eu parce que ça lui arrivait vers... Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 75 ans. Ça lui arrivait assez tardivement dans sa carrière, en fait, voilà, d'un seul coup, d'être, reconnu, en fait, pour son talent, vraiment, et de devenir ce showrunner, en fait, qui va changer la face de la télé américaine, quoi. Et malgré le fait que, justement, et c'est probablement en général ce qui se passe quand les gens ne veulent pas vraiment faire ça, qui veulent justement sortir de leur milieu... c'est là où, en fait, où d'un seul coup, c'est eux qui révolutionnent quelque part le truc, puisque justement, ils ne veulent pas faire ce qu'on leur oblige à faire, en fait, la plupart du temps.
Il est libéré de cette contrainte-là. En fait, c'est quelqu'un qui, au départ, se voyait comme un écrivain, qui a vite réalisé aussi ses limites. Il est très clair là-dessus. Hein. Il l'a dit en interview régulièrement que quand on démarre dans l'écriture, on réalise assez vite qu'on n'est pas Tchekhov ni Faulkner, et qu'en gros ça calme, quoi. Qu'il est devenu accro des salaires télévisuels quand il a commencé à bosser à la télévision, mais que dès l'instant, enfin, où il a commencé à essayer de poser ses propres billes à lui, du coup ça marchait pas. La série sur laquelle il a débuté, je pense que c'est pas anodin, c'est une série qu'on connaît pas en France, même bien qu'elle ait été diffusée, je crois, à l'époque, s'appelait Dossier Brûlant, Kolchak, The Night Stalker en anglais, qui est accessoirement la série qui a inspiré Chris Carter pour X-Files. Hein. C'est une série fantastique, un X-Files avant l'heure, hein, des 70s. Mais à l'époque où il bosse là-dessus, il a le projet, donc, de, à défaut d'être écrivain, de devenir cinéaste. Donc dans les années 70, il projette quand même beaucoup ce truc-là. Sauf que d'après ce que j'ai compris, il a aussi quelques problèmes d'addiction qui vont faire qu'il va avoir besoin de beaucoup d'argent, que du coup il va rester à la télévision parce que ça paye bien. Et à la fin des années 80, il développe une série qui est plutôt ambitieuse dans sa narration, mais qui va se planter totalement, qui s'appelle Almost Ground.
En 88, voilà, ouais.
Qui est généralement, dans le milieu scénaristique, les gens le connaissent pour ça avant que Les Sopranos n'arrivent, qui raconte l'histoire de personnages à trois moments clés de leur vie, en fait, le collège, l'université et le divorce. Et qui entremêle, en fait, ces trucs-là. Mais bon, un truc trop méta, trop complexe pour la télévision, et ça s'est planté. Donc voilà, ce que dit Stéphane est très juste. Effectivement, Les Sopranos, pour lui, c'est sa porte de sortie de ce monde-là. Et finalement, ça va être effectivement une porte de sortie, mais une porte de sortie de cet univers télévisuel dans lequel il n'a jamais trouvé sa place, parce qu'il va créer le sien.
Et il est extrêmement protecteur, en fait, de cette série. C'est-à-dire qu'il est extrêmement fier de ce qu'il a fait. C'est un égo, hein. Mine de rien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que HBO a dû gérer, hein, aussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une série qui a duré donc 6 saisons et en fait elle a été faite. Alors il y a, par exemple, on sait que la saison 6 a été à un moment donné arrêtée précisément parce que James Gandolfini avait eu un souci, en fait, il a dû se faire opérer de la jambe et tout. Donc du coup, c'est pour ça que ça retardait, en fait, la deuxième partie. C'était pas un jeu, en fait, pour finir la série. Voilà. N'empêche que ça lui a permis, par exemple, d'exiger un dernier épisode, en fait, pour vraiment boucler le truc, parce que l'idée, c'est vraiment de faire les choses bien. Et il pouvait se le permettre. Parce que, en fait, Les Sopranos, c'est avant Game of Thrones, c'était la série phare, en fait, pour HBO. Et du coup, il était vraiment traité comme un prince, en fait. Voilà. Et en fait, c'était un égo à gérer aussi avec les comédiens, hein, mine de rien, parce que ça, on en parlera peut-être après quand on parlera des comédiens, mais en fait, il y a eu des grosses tensions, en fait, au fur et à mesure où la série fonctionnait, quoi. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a aussi une logique familiale, en fait, qui est ancrée dans son fonctionnement.
Alors effectivement, il a d'ailleurs ses collaborateurs, beaucoup c'est des amis à lui à la base qu'il connaît de la vie personnelle. Bon, tu dis qu'il est très protecteur, en même temps il a quand même énormément de rôles dans la production de la série, puisque donc il est showrunner, producteur exécutif, scénariste en chef pendant les 8 années de production. Il a écrit un très grand nombre de scénarios, hein, plusieurs épisodes sur chaque saison. Et il aurait aussi supervisé tout le montage et réécrit plusieurs épisodes confiés à d'autres scénaristes. Mmh. C'est un petit peu comme Alexandre Astier, hein, il y a cette envie peut-être de tout contrôler.
Mais alors moi, quand je parlais d'être protecteur, c'était pas forcément uniquement, en fait, vis-à-vis de ce que tu contrôles quand tu fais la série, maintenant que la série est terminée depuis maintenant plus de 15 ans, quoi, enfin quasiment 15 ans. Mais c'est vraiment l'idée que quand justement Game of Thrones a commencé à cartonner, en fait, apparemment, il a envoyé un message à HBO en disant « Mais qu'est-ce qui se passe là, votre série, elle est... C'est plus Les Sopranos, le l'étendard en fait d'HBO, et les mecs d'HBO ont dû lui répondre si t'inquiète pas, tout va bien,
on t'oublie pas,
voilà. Non, c'est donc il a vraiment c'est un ego, on va dire, de créateur très 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 prononcé. Et d'ailleurs en fait là il y a le film là, la préquelle qui sort en ce moment bientôt,
on en parle dans le prochain épisode,
voilà. Et en fait cette préquelle par exemple, c'est quelque chose où il a ouvertement dit je ne ferai pas ce truc si ça n'avait pas une vraie importance en fait dans l'univers des Sopranos. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'idée de rajouter quelque chose ou de capitaliser sur la popularité, le succès et l'héritage en fait, on va dire, des Sopranos, quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un de qui dans cette création spécifique a tout donné, quoi.
Très bien, je pense qu'on va passer à la suite. Un dernier détail, parce que je voulais le dire tout à l'heure, et puis en fait on est parti sur autre chose, mais dernier parallèle avec la série et son propre vécu, David Chase était en psychothérapie à l'époque, et il a construit le personnage du docteur Melfi d'après son propre psychiatre.
Ouais, ça fait sens. Merci, ouais. Et aussi, parce qu'on va en parler un petit peu, du coup, il a beaucoup... contribuer à redéfinir aussi le travail d'équipe de scénariste dans le fonctionnement de ces séries-là. Donc, il chapeaute effectivement tout très sérieusement, mais en même temps, il a donné une véritable liberté d'écriture à ses collègues, dont certains vont ensuite prendre leurs ailes et nous livrer d'autres séries importantes.
Alors, justement, c'est exactement ce dont on parle. Tout de suite, la plupart des autres personnes qui ont travaillé sur Soprano, que ce soit des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs, ont tous déjà écrit pour la télévision avant cette série-là. Et donc, effectivement, David Chase n'est pas tout seul sur la série, hein, il est très bien entouré, à commencer par Terence Winter, ouais, scénariste sur 23 épisodes et producteur sur Les Sopranos, mais aussi connu pour ça. Est-ce que vous avez reconnu ce générique ?
C'est Boardwalk Empire, non ?
Exactement, et oui, puisque Terence Winter est aussi le créateur de la série télévisée Boardwalk Empire, série qui se déroule principalement à Atlantic City pendant la Prohibition et qui suit pendant 5 saisons l'ascension puis la chute d'un trafiquant d'alcool, trafiquant interprété par...
Buscemi.
Et oui, Steve Buscemi.
Tout à fait, et avec un pilote réalisé par Martin Scorsese, excusez du peu, avec lequel il va entretenir une relation de confiance, hein, puisque ils vont ensuite faire ensemble le Loup de Wall Street. Donc c'est voilà, des Sopranos qui tentaient justement d'émuler les Affranchis, lui il est monté jusqu'à Dieu le Père en fait.
Donc il n'y aurait pas aussi une petite forme de mafia ou de famille italo-américaine dans le ciné?
Je pense que c'est tout simplement, c'est intéressant de savoir comment un mec comme Scorsese a pu voir les Sopranos. Il les a évidemment découverts en live, quoi, et il a dû se dire, mais mon Dieu, enfin des mecs ont tout compris. Donc ouais, je pense qu'il y a une vérité je parle en anglais dans ma tête, de la dépiction, j'allais dire. Il y a une vérité de la description de cet univers-là dans les Sopranos qui résonne, quoi, et qui d'ailleurs la raison pour laquelle on lui file un projet comme Boardwalk Empire sur la mafia d'Atlanta, dans les premières heures. Moi, je suis pas un grand fan de ce que j'en ai vu, hein. J'ai pas regardé la saison entière, mais c'était quand même un projet monumental.
C'était très ambitieux, puis surtout à l'époque où c'est sorti, là peut-être on en parle moins, mais c'est vrai qu'à l'époque où c'est sorti, ça a clairement été présenté comme le fruit de l'un des créateurs des Sopranos, quoi. Ça c'était clairement mis en avant. Il y avait ça et le nom de Scorsese en fait qui était clairement mis en avant. Et Terence Winter, c'est quelqu'un qui a quand même écrit presque, je crois, 20 à 25 épisodes, en fait, hein, donc des Sopranos 23.
Exactement.
Donc le truc, c'est que c'est un nom assez important. Il y a, comment dire, la logique familiale, on va dire, elle est là parce qu'il y a, par exemple, il y a un couple aussi, je crois, de scénaristes, en fait, qui sont sur cette série. Il y a Mitchell Burgess et sa femme.
Robin Green et voilà, Mitchell Burgess.
Voilà, ouais. c'est des scénaristes, en fait, qui ont toujours travaillé plus ou moins ensemble et, en fait, qui, voilà, ont écrit aussi quelques épisodes là-dedans.
Et qui ont travaillé avec Chase sur d'autres séries auparavant, sur Bienvenue en Alaska et 200 dollars plus les frais.
Voilà, donc la logique familiale. C'est vraiment, en fait, elle est vraiment aussi impliquée dedans. Voilà, mais je pense que c'est normal parce que, quelque part, il y a l'idée, en fait, de contrôle passe aussi par là. C'est-à-dire que, en fait, d'ailleurs, là, récemment, David Chase, en fait, a fait le tour un peu de la promo pour justement The Many Saints of Newark,
la préquelle.
Non, mais c'est un rapport avec les Sopranos, justement, vraiment direct. C'est que, en fait, il dit ouvertement que si personne d'autre ne fera quelque chose des Sopranos, si ce n'est lui, sauf peut-être éventuellement Terrence Winter. Ce qui veut quand même déjà dire qu'il y a un truc de confiance et que bah, c'est son Chris, lui. <quoi. rire> Voilà, il y a ce truc de... On peut voir ça un peu comme ça, quoi. Donc oui, la logique familiale derrière l'aspect, créatif des Sopranos, il est évident. Et puis... effectivement aussi dans le casting, je pense, après. C'est-à-dire que ça va se ressentir aussi, quoi.
Ouais, on va y venir dans un petit instant, mais il y a une autre personne dont je voudrais qu'on parle avant ça, c'est Matthew Weiner. Weiner.
Moi, je dis Weiner parce que ça fait zizi, mais on peut dire Weiner.
Matthew Weiner, scénariste de 12 épisodes et producteur sur les deux dernières saisons de la série, si je ne dis pas de bêtises, mais qu'on connaît également pour ceci. Alors là, on est dans un autre genre de famille.
Je vais me draper dans mon ignorance.
Quel beau jeu de mots.
Moi, je suis littéralement dans l'ignorance. Parce que c'est vrai que j'ai dû voir un épisode et demi. Mais...
Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, donc ça, c'est le générique de la série Mad Men, puisque donc Matthew Weiner est créateur, producteur exécutif, scénariste principal et responsable de la série Mad Men, diffusée par la chaîne AMC.
Mais de toute façon, on peut reconnaître la patte qu'ils ont eue sur les Sopranos, justement, par rapport à l'identité de ces séries-là. C'est-à-dire que le caractère anthropologiquement juste de Boardwalk Empire dans la description du monde criminel d'un côté, et le caractère incroyablement juste dans les comportements humains et les non-dits dans Mad Men de l'autre, en fait. Donc, quand on te dit que les Sopranos ont ouvert toutes les portes, c'est qu'effectivement, ils ont ouvert toutes les portes, quoi. Ça aurait pu être d'autres gens qui auraient créé ces séries-là, mais ils l'auraient fait dans la continuité de ce que Chase a effectivement initié.
Et puis, au scénario, on peut encore citer Michael Imperioli, l'acteur qui incarne Christopher Moltisanti dans la série, qui a écrit 5 épisodes. Et Tony Kellam, l'interprète d'Angie Bonpensiero, qui lui a écrit un épisode de la saison 5, l'épisode Famille, je vous aime.
Ouais. Et on peut aussi parler, parce qu'on n'en parle pas si souvent finalement dans notre émission, des réalisateurs, parce que moi je sais qu'à titre personnel, en tant que cinéphile, c'est une des choses qui a largement contribué à me faire rentrer dans ce monde-là. Donc les Sopranos étaient diffusés à l'époque sur Canal Jimmy, comme tu l'as dit, je les ai découverts dans cette condition-là, et j'avais, dans les années 90 et 80, beaucoup de problèmes avec les séries américaines à cause de leur look, en fait. Je n'arrivais pas à regarder à cause de ça, même si les scénarios étaient intéressants, etc. Mais quand j'ai vu Les Sopranos, j'ai vu quelque chose qui était filmé comme si c'était fait pour passer dans une salle obscure, avec ce que j'aime en tant que cinéphile, dans le choix des cadres, le travail photographique, etc. Et donc, il y a eu un énorme effort de fait de ce côté-là. Et effectivement, la frustration de David Chase, qui n'a jamais pu être un cinéaste, elle s'est ressentie dans le désir de donner à cette série un cachet cinématographique. Et du coup, il a été aidé par des cinéastes. Alors, il y a bien sûr Tim Van Patten, David Nutter, qui sont des gens qu'on connaît aujourd'hui pour justement avoir fait la série Game of Thrones, qui sont un peu les mercenaires de HBO, qui sont derrière tous les meilleurs projets du HBO, mais c'est des gros bosseurs. Mais on a également des gens qui viennent du cinéma traditionnel. Et je pense à Peter Bogdanovich, par exemple, qui était un cinéaste star des années 70, qui a très très mal traversé les années 80.
Et qui incarne d'ailleurs le psy de Nelfi. Quoi.
Il joue le psy de la psy de la série. Donc c'est-à-dire qu'il est en train d'ausculter, c'est le maître qui ausculte ce que David Chase a fait avec son film à lui, toi, si tu veux. Et Bogdanovich a également réalisé certains des épisodes. Mmh. Tu m'as dit qu'il y avait Mike Figgis également, qu'on avait
Mike Figgis, qui est aussi une figure de la scène indépendante. Voilà. Mais c'est assez marrant parce que je pense qu'on peut relier un petit peu les Sopranos à l'émergence aussi du cinéma. Enfin, cinéma indépendant des années 90, en fait. C'est-à-dire que, en gros, le renouveau, on va dire, si on enlève les côtés Miramax, tout ça, enfin, voilà, le renouveau de ce truc-là. Par exemple, Steve Buscemi, quand Steve Buscemi apparaît dans une saison, vraiment, il est l'un des personnages principaux de la saison 5, ça fait sens, en fait, de voir Steve Buscemi. C'est une star, en fait, dans la logique des Sopranos. C'est-à-dire, c'est pas forcément, c'est une plus-value de grande qualité dans les grands blockbusters, en fait, de voir Steve Buscemi, on va dire. Mais dans les Sopranos, c'est une star. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai deal, en fait, qui se fait autour du personnage. Genre, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Comment est-ce que je termine? Quel est l'arc de mon personnage? Et surtout, il réalise 4-5 épisodes parce que Steve Buscemi, c'est aussi un réalisateur, en fait, de petits films indépendants. Voilà, etc. Donc il y a ce cachet, en fait, indie, on va dire, que la série dépasse, hein, pour moi, totalement, hein, mais qui, en fait, fait sens d'un point de vue market et qui fait sens d'un point de vue aussi d'aller chercher, en fait, ces gens-là, ce qu'ils représentent, en fait, pour dire, on est en train de casser les règles de la télé américaine, quoi.
En s'aidant aussi de ce qui se passait à l'époque avec l'apparition la démocratisation des écrans 16-9, où on commençait justement à cadrer différemment parce qu'on savait que les gens allaient regarder sur de meilleurs écrans avec une meilleure définition. Enfin voilà, il y a eu tout un truc esthétique que les Sopranos ont également porté, qu'il fallait souligner.
Alors là, on vient de passer une vingtaine de minutes à parler des personnes derrière la caméra, des personnes de l'ombre en quelque sorte. Maintenant là, on n'a plus le choix, il faut qu'on parle du casting, ça devient trop urgent. Évidemment, en première ligne, James Gandolfini, qui a remporté pour le rôle de Tony Soprano 3 Emmy Awards, 3 Screen Actors Guild Awards et un Golden Globe. À l'époque, il a été invité à passer une audition pour le rôle après que la directrice de casting, Suzanne Fitzgerald, ait vu un petit clip de sa prestation dans le film True Romance. On en parlait justement dans le premier épisode.
Ouais, True Romance, en fait, c'est une scène absolument incroyable, hein, où il retrouve Alabama, le personnage d'Alabama, en fait, pour récupérer la coke qu'elle aurait volée. Et en fait, c'est une scène où il la passe à tabac.
Il la défonce en retour.
Voilà. Et c'est un truc, en fait, c'est une scène très, très forte dont les gens se rappellent. Et clairement, en fait, il y a un jeu là-dedans, en fait, qui le rend extrêmement... parce que c'est à la fois, effectivement, un tueur de sang-froid et en même temps quelqu'un qui reconnaît la valeur du personnage qu'il a en face de lui et qui est touché, en fait, par ce personnage, alors qu'il le dit ouvertement, lui, qu'il n'a plus de sensation quand il tue quelqu'un. Donc, en fait, c'est une scène très forte. Moi, je trouve assez magnifique, en fait, dans le film. Et pour moi, pendant longtemps, avant que je revoie Les Sopranos, en fait, c'était la scène de Gandolfini, quoi. C'était vraiment le truc.
Je suis choqué, Stéphane. Tu ne cites pas Perdita Durango.
Mais si, justement, parce que j'allais dire, c'est un acteur.
Un caractère acteur qui
utilise la méthode, hein, voilà, et qui, à mon avis, avec Les Sopranos, a trouvé un rôle à sa mesure parce que justement, il était dans des seconds rôles de très grande qualité pendant longtemps, en fait, et notamment donc dans Perdita Durango aussi, qui est un film, voilà, où il joue un mec qui court derrière les deux personnages principaux, quoi, un espèce de flic qui est tout aussi pourri finalement qu'un gangster, mais qui est très volubile aussi, qui est très mais Gandolfini, il donne, c'est un gros nounours, en fait, le mec. Il donne un énorme, cachet, je pense, à ces personnages-là. Et par exemple, en fait, quand tu regardes une série comme Les Sopranos, lui, là, c'est connu, hein, ces trucs-là, il le disait. Hein, par exemple, quand il fallait qu'il ait une scène où il s'énerve, la veille, il dormait pas. Ou alors, il se mettait quand il voulait être agacé ou un truc comme ça, il se mettait un caillou dans la chaussure pour être sûr que ça allait le gonfler pendant toute la journée. Tout ça, c'est des trucs connus d'acteurs. ce qu'on dit de la méthode, on va dire, parce que bah, voilà, il vient de là, quoi. C'est quelqu'un qui a émergé dans les années 90, en fait, à un moment donné où justement ces acteurs-là n'avaient pas en fait des rôles principaux comme pouvaient les avoir De Niro, Pacino, en fait, à un moment donné dans les années 70, quoi. Il a cette étoffe, clairement, même si c'est différent. Et en gros, les Sopranos, c'est ce qui lui a permis de montrer ça, en fait, de donner ça. Et ce que je trouve en fait extrêmement fort en fait avec lui, c'est que clairement, il a une gueule patibulaire, en fait, voilà. En même temps, il y a un sketch en fait qui est très drôle dans Saturday Night Live où il apparaît. C'est pas dit en fait qu'il joue Tony Soprano. Et il apparaît dans un truc du Weekend Update. Et c'est Tina Fey et Amy Poehler en fait qui présentent le truc, quoi. Et en fait, en gros, elles disent voilà, on a besoin de l'avis d'un résident du New Jersey pour nous expliquer quelque chose. Et il arrive avec un lecteur de DVD qu'il leur offre et tout. Et en fait, il joue clairement le mafieux et tout, quoi. Et à un moment donné, la phrase finale, en fait, si tu veux, c'est que quand il s'en va, moi, je vous invite à regarder le sketch, si vous parlez anglais, il est sur YouTube et tout, c'est que, en fait, Tina Fey dit, c'est un des mecs les plus dangereux que j'ai pu rencontrer, mais pour lequel j'ai été attiré. Et quelque part, il représente ça, en fait, et il le fait super bien, quoi. Parce que ce côté nounours, ce côté, voilà, en fait, bon, la série joue avec son côté mal-alpha, il joue avec l'idée que, en fait, les femmes puissent être attirées sexuellement parce qu'il est dangereux, parce que, voilà. Mais en même temps, en fait, il y a ce côté
c'est
nounours.
Pas seulement qu'il est dangereux, c'est the man in charge.
Ah, complètement, voilà, c'est avec
oui,
moi, ça va bien se passer.
Il a du pouvoir.
Voilà, ça, avec moi, ça va bien se passer, c'est ton problème, je vais le régler. Mais le
mais
côté.
C'est contrebalancé par le côté enfantin du personnage et notamment son zozotement, en fait, hein, qui est un truc avec lequel il a beaucoup bataillé en tant que comédien, mais que finalement, on lui a conseillé d'en jouer plutôt que d'essayer de cacher. Ça lui donne une fragilité intéressante.
Et moi, ce que j'aime, en fait, du coup, avec ce personnage-là, c'est qu'en fait, il aurait pu être facilement... Et d'ailleurs, ça a été un peu le cas. Hein, il a été un peu enfermé. Mais il a essayé de casser ça, en fait, et tout. Mais en fait, il aurait pu être enfermé vraiment dans les rôles de mafieux, de politicard foireux et tout. Et par exemple, il apparaît dans Max et les Maximons. C'est lui qui joue le rôle, en fait, du monstre principal, quoi. Et il est parfait, en fait. C'est un casting parfait parce que bah, ce côté nounours, en fait, il est tellement évident que voilà, en fait, il représente littéralement un nounours à l'écran, quoi. Et voilà, c'est vraiment, et c'est une perte parce que c'est quelqu'un qui est mort assez jeune, hein. Il avait 52 ans, 51 ans, peut-être, je sais plus, quoi, et d'une crise cardiaque.
Et ça, en juin 2013.
Voilà. Et ouais, c'est une perte, mais c'est presque préfiguré par ce que tu voyais dans le personnage parce que les personnages dans la série, ils n'arrêtent pas de le dire. Ils disent, putain, s'il continue à bouffer comme ça, il va avoir une crise cardiaque, en fait. Quoi.
Et finalement, la réalité le rattrape. Hein. Il a une crise cardiaque alors qu'il est en voyage en Italie, à Rome, pour recevoir un prix au festival de Taormine, en Sicile. Et donc, évidemment, c'est une tragédie pour la planète série, cinéma, enfin, tout cet univers. Au lendemain de sa mort, Bruce Springsteen et le E Street Band dont est membre le guitariste Steven Van Zandt, donc celui qui joue Silvio Dante dans la série, joue une interprétation de leur album Born to Run en la dédiant à Gandolfini.
Je vais rajouter peut-être aussi une petite anecdote sur Gandolfini pour dire à quel point il est représentatif en fait de ça. C'est qu'à un moment donné, quand la série The Office cherchait un remplaçant à Michael Scott, en fait, au personnage de Steve Carell, ils ont pensé à Gandolfini et ils lui ont fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Et en fait, en gros, il a dû la refuser, parce que HBO et, à mon avis, David Chase ont dit non. Vous n'avez pas parodié ce personnage-là, parce que je pense que c'est clairement ce qui était attendu. Et ce qui s'est passé, c'est que HBO, pour convaincre Gandolfini, a dû renchérir sur l'offre pour qu'il ne soit pas dans la série. Donc en fait, je crois que, en gros, il me semble que The Office, ABC ou NBC, je ne sais plus, a proposé 4 millions de dollars pour qu'il vienne en fait remplacer Michael Scott, pour que ça soit le nouveau boss de The Office, quoi. Et HBO a déboursé 5 millions. Et à mon avis, David Chase est vraiment derrière cette notion-là. Et je pense que l'idée principale, donc Gandolfini a gagné 5 millions à rien faire, mais je pense que l'idée en fait principale, c'est vraiment en fait de maintenir la crédibilité et le cachet en fait des Sopranos
le et notamment
effectivement, à mon avis c'est ça, quoi.
Alors, au-delà de James Gandolfini, on va parler du reste du casting aussi. Hein. La plupart des acteurs des Sopranos sont italo-américains. Mmh. Ils étaient souvent engagés dans des productions hollywoodiennes à propos de la mafia. Par exemple, la série possède 27 acteurs en commun avec Les Affranchis. Il y en a certains qui ont joué aussi dans la trilogie du Parrain. Et on retrouve donc parmi ces comédiens et comédiennes, en première loge, Lorraine Bracco.
Évidemment.
Qui devait jouer à la base le rôle, en qui on a proposé le rôle de Carmela Soprano. Et c'est assez marrant parce que d'ailleurs, c'est un vrai jeu de chaise musicale, en fait, le casting.
Oui, parce que c'est l'inverse. Comment s'appelle-t-elle ?
Eddie Falco,
merci, qui joue Carmela, s'imaginait beaucoup plus jouer le rôle de la psychiatre à la base.
Oui, tout à fait. Et en fait, Lorraine Bracco a dit non, mais je ne veux pas jouer ce rôle, en fait, qui est le rôle, en gros, des Affranchis. Ça serait trop proche. Donc, elle a proposé, en fait, justement, de jouer le rôle de la psy à la place. Mais évidemment que la filiation, elle est là, puisque Lorraine Bracco, elle a été littéralement révélée par Les Affranchis, puisque je dis pas de bêtises, il me semble qu'elle a gagné un Oscar du meilleur second rôle féminin, ou en tout cas, elle a été nommée.
Et si je peux me permettre d'être méchant, je pense que Eddie Falco est une meilleure comédienne que Lorraine Bracco, qui finalement est assez limitée dans son répertoire. Donc, on la voit pas tant, la psy, dans la série. Elle a pas besoin de passer par toutes les gammes d'émotions. Alors que la femme de Tony Soprano, c'est vraiment un rôle difficile au sens, il y a beaucoup de choses à faire, quoi.
Le personnage du psy, du docteur Melfi, incarne une autre partie de la population italo-américaine, celle qui est bien intégrée finalement, et qui est beaucoup plus dans la normalité, qui a réussi à sortir de cette communauté assez fermée.
Tout à fait. Mais ça reste... je pense que le casting d'Eddie Falco dans le rôle de Carmela était quand même bien mieux vu, quoi.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Eddie Falco, assez souvent... elle racontait qu'elle avait un tel rapport, en fait, à Tony Soprano, qui est presque, en fait, du mimétisme vis-à-vis de son personnage, c'est que quand elle voyait Tony Soprano dans un autre film avec une autre actrice qui s'embrasse, par exemple, en fait, elle était jalouse. Et elle dit, je comprends pas, en fait, pourquoi. Mais c'était comme ça, j'avais un espèce de précaré autour de Gandolfini, et du coup,
c'est mon mari, quoi.
C'est mon mari, en fait. C'est mon mari à l'écran. Donc, en fait, dès que je le voyais sur un autre écran, c'était pas possible, quoi. Donc voilà. C'est assez marrant. Eddie Falco, d'ailleurs, on va la voir dans la suite d'Avatar. Ça sera intéressant de voir parce que c'est pas une actrice qu'on voit souvent en dehors, justement, du rôle de Carmela. Elle est vraiment identifiée maintenant à ça. Ça sera intéressant de voir parce que c'est vrai que c'est une excellente actrice. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un d'assez. Enfin, moi, je trouve assez. Elle donne un énorme corps, je trouve, au personnage.
Elle a un grand répertoire. Et d'ailleurs, quand on découvrait à l'époque Les Sopranos sur Canal Jimmy, on pouvait aussi découvrir à la même époque Oz.
Oz, tout à fait.
Dans lequel elle jouait un gardien de prison.
Et
pareil, où elle était. Tu ne pouvais que la voir. Et je sais que pour une partie du public français, elle a été l'incarnation de ce renouveau de la série télé parce qu'elle était dans les deux principaux chocs télévisuels de l'époque. Quoi.
Et puis en plus, dans Oz, c'était vraiment un des rares personnages féminins. Donc,
Tu ne pouvais pas passer à côté. Quoi.
Ouais. On la voyait d'autant plus. La réalité de plus en plus proche de la fiction, autre comédien de la bande, Tony Sirico, qui a un passé criminel lié à la mafia, pour de vrai, et qui a accepté de jouer Polly, mais à une condition, c'était que son personnage ne soit pas une balance.
Ouais, et c'est assez marrant parce que je pense qu'en fait, ça représente vraiment ce que ça veut dire. En fait, dans ce milieu-là, dans un épisode précédent, Rafik expliquait justement que l'un des épisodes clés de la première saison, c'était que Tony Soprano tue une balance, même si cette balance ne lui a rien fait à proprement parler. C'est-à-dire que la balance, c'est le rat, comme ils disent, en fait. Je pense que c'est à peu près, dans leur logique, c'est à peu près autant qu'un homosexuel. En fait, c'est vraiment, il y a cette idée vraiment
c'est
de...
Bien pire.
Ouais, même. Voilà. Non, mais c'est assez... Bah non, mais enfin...
Non, mais à leurs yeux, c'est bien pire. L'homosexuel, il l'écarte de la communauté, la balance, il le tue, quoi. Donc.
Il le tue aussi, l'homosexuel. Mais bon, le truc, c'est... En tout cas, le truc que je veux dire, c'est que, voilà, c'est comme lui, en fait, a ses racines-là, en fait, dans le milieu. Même le fait d'être une balance fictive n'était pas concevable, en fait, pour Tony Sirico, quoi. Et alors, moi, je le trouve absolument, je pense que tu peux, enfin, Aujourd'hui, c'est le genre de si tu le revois dans des vieux films qu'il a pu faire, parce qu'il est à un moment donné, il a basculé, il a été révélé par Les Sopranos, mais il a quand même fait l'acteur dans quelques autres films, hein, Tony Sirico. Tu peux presque pas, en fait, le dissocier. Enfin, c'est impossible pour moi de le dissocier de Polly Walnuts, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc. Il parle comme ça. Et d'ailleurs, pareil, dans un. Moi, je regarde beaucoup de. J'aime bien regarder les interviews de talk show, en fait, sur YouTube et ce genre de choses, quoi. Et notamment, t'as Louis C.K., qui à l'époque, en fait, de la fin des Sopranos, avait lui aussi une série, en fait, sur HBO, et du coup, il était invité aux mêmes soirées que Les Sopranos, quoi. Il racontait qu'à un moment donné, Polly Walnuts vient le voir, Tony Sirico, il lui dit « Ah, c'est toi, Louis C.K., tu t'as fait cette série et tout. » Puis il joue avec ses doigts, en fait, il lui montre, parce que c'est ce que fait le personnage, le vrai. Et il fait « C'est pourri ce que tu fais, toi, arrêtez ce que tu fais, quoi. » Et l'autre, t'as Tony Sirico qui explique à Louis C.K. qu'il devrait arrêter, en fait, sa série de merde et tout ça, etc., etc. Et Louis C.K. raconte ça en disant j'aurais été déçu si d'un seul coup le mec venait me parler normalement comme si c'était un acteur et qu'il avait pas ce rôle-là. C'est littéralement, il l'incarne, ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est lui et Gandolfini, en fait, se sont un petit peu plaints du processus d'écriture, en fait, au fur et à mesure des scénaristes, parce que pour nourrir ces personnages-là, les scénaristes les écoutaient. Et d'un seul coup, une semaine après, en fait, ils se retrouvaient avec des éléments de leur vie privée dans l'écriture du personnage. Notamment, par exemple, le fait qu'il soit,
asthmatique.
Il a des problèmes avec les germes, en fait. Enfin, il est
germaphobe. Oui, ouais,
c'est ça. En fait, c'est dans c'est dans la série, mais c'est parce que Tony Sirico est vraiment, voilà. Et Gandolfini disait, littéralement, il a appelé Chase et les scénaristes, il les appelait les vampires, en fait. C'est-à-dire, vous nous sucez notre sang pour écrire vos trucs. Et à la fin, ça crée de plus en plus une certaine animosité sur le tournage, quoi.
Il incarne aussi ce personnage, au-delà de la criminalité de son passé, il incarne aussi un certain état d'esprit du, ce qu'on appelle le blue collar new-yorkais et du New Jersey, c'est
le raison prolo, pour lequel, hein.
Voilà, le vrai prolo, mais new-yorkais spécifiquement, avec son accent, sa culture, etc. Raison pour laquelle il a fait autant de films de Woody Allen, par exemple, parce qu'il est une incarnation de cette cité. Il jouait également dans Copland avec Eddie Falco, tous les deux, donc voilà, on était déjà dans la même région du New Jersey. On l'a vu dans Dead Presidents aussi, ouais. Où il jouait un flic cette fois-ci. Donc, tu vois, que ce soit flic ou que ce soit mafieux, finalement, c'est interchangeable, parce que ce qui compte, c'est ce côté, effectivement, prolétaire à la gâchette facile.
Et alors, il y a une mise en abîme qui est intéressante dans la série. C'est que donc, Tony Sirico, il a un passé lié à la mafia, il devient acteur. Et dans la série, Christopher, il est lié à la mafia, mais qu'est-ce qu'il rêve de faire ?
Scénariste à Hollywood. Et d'ailleurs, j'étais surpris à l'époque du fait que ce soit aussi explicité dans la série, puisque donc il se sert de l'argent de la mafia pour financer des petits films d'horreur qui rapportent énormément sur le marché international, et il s'associe avec un réalisateur américain d'origine asiatique. Et à l'époque, on avait ce petit film d'horreur sorti de nulle part qui s'appelait Saw,
réalisé qui est explicitement cité dans la série, en plus, puisqu'il regarde Saw.
Réalisé par James Wan. Et je me disais, mais attends, ils sont juste en train de nous dire que Saw a été financé par l'argent de la mafia, tranquillement, peinard, l'air de rien, quoi. C'est pas si Saw. Alors, il y a plein de les gens qui connaissent un petit peu les dessous des affaires criminelles se retrouvent dans les films, que ce soit Casino, Les Affranchis, etc., des choses qui se sont réellement produites, quoi. Mais là, ça touchait le cinéma. C'est ça qui m'avait étonné, c'est qu'il montre aussi explicitement qu'une partie de l'argent qui circulait en masse dans cette industrie avait des origines très clairement criminelles, quoi.
Et d'ailleurs, en fait, le Michael Imperioli, justement, en fait, racontait que la première fois qu'il a lu le scénario, il ne comprenait pas le ton, c'est-à-dire du pilote. C'est-à-dire que pour lui, c'est absolument pas dit une seule seconde, c'est une série qui va marcher, c'est une série qui est en train de casser les codes, c'est une série qui, voilà. Il l'a compris bien après, évidemment, hein, et d'ailleurs, c'est un grand représentant de la série aussi, c'est-à-dire dans le sens où on le voit beaucoup parler, en fait, de la série, et chaque fois il est invité pour ces choses-là, il est là, il est présent, en fait. Mais c'est effectivement, alors Rafik l'avait souligné, je ne sais plus si c'est dans cet épisode ou l'épisode précédent, en fait, que Michael Imperioli, on le connaît parce qu'il joue Buzz Boy en fait, ouais, dans Les Affranchis,
dans une scène traumatisante, voilà, dans Les Affranchis,
où, ouais, il se fait tirer d'abord dans la jambe et puis ensuite il y a un retour de scène, en fait un payback avec cette scène plus tard, quoi, avec,
il dit juste fuck you au personnage
de Joe Pesci,
et puis il se fait buter comme une merde,
voilà, et en fait on le connaît à cause de cette scène parce que c'est une scène forte, on va dire, quoi, et il disait oui, à l'époque moi j'avais juste besoin de gagner ma croûte en fait en tant qu'acteur, et donc j'ai accepté ce truc là il était persuadé d'avoir planté son audition. Et puis il s'est dit, de toute façon, je m'en branle en fait si j'ai planté mon audition, parce que c'est écrit par un mec qui connaît rien au milieu italo-américain, parce qu'il pensait que David Chase n'était pas du tout italo-américain, voilà. Mais oui, et puis enfin, pour le coup, je trouve que c'est aussi le rôle d'une vie, parce que il est très touchant en fait dans cette figure tragique en fait, et il incarne bien quand même un peu une certaine idée de la stupidité du personnage. Il y a un côté comme ça, en fait, ce personnage. Il est un peu crétin sur les bords, quoi.
Alors, un dernier acteur dont on va parler avant de fermer boutique, c'est Steven Van Zandt. Ouais. On le disait tout à l'heure, lui, il n'est pas acteur de profession à la base.
Musicien,
il est,
ouais,
musicien, il est guitariste. Mmh. Il joue dans le groupe de Bruce Springsteen, E Street Band. Et David Chase a créé le personnage de Silvio pour lui.
Oui.
Spécialement.
Bah, comme on l'a dit dans le premier épisode, hein, Chase, c'est quelqu'un qui a vraiment une culture rock'n'roll très forte, qui a fait partie d'un groupe de rock, etc. Donc, il a une admiration pour Van Zandt, qui n'est pas seulement un musicien chez Springsteen, parce qu'il a bossé avec basiquement tout le monde. Mmh. Moi, j'aimerais juste, voilà, dire aux gens, parce que c'est un truc hélas pas connu, mais il a été à l'origine de ce groupe qui s'appelait Artists Against Apartheid en 1985, à une époque où personne à Hollywood ne voulait s'engager dans le truc. Voilà, on chantait We Are the World, We Are the Children, mais il n'était pas question de parler de l'Afrique du Sud. Mmh. Et il avait fait une chanson qui s'appelait Sun City, où il avait invité les quelques rares artistes qui acceptaient, qui étaient comme par hasard la plupart noirs. Et la chanson est absolument extraordinaire, donc je vous invite à aller voir ça. Mais du coup, ça montre que c'est quelqu'un qui était très intégré dans tout ce milieu-là, parce qu'il avait la possibilité de faire venir tous les gens à son micro, quoi.
Effectivement, mmh. mais à la base, Van Zandt a refusé. Il ne voulait pas prendre le job d'un vrai acteur.
Oui,
parce que sa femme est actrice, en fait.
Voilà.
Et d'ailleurs, je crois qu'elle est dans la série, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument, elle joue la propre femme de Silvio, voilà, l'épouse de Steven, qui s'appelle Maureen Van Zandt.
Après, moi, comme je l'ai dit dans un épisode présent, moi, je trouve que c'est vraiment le personnage est sympathique et tout, mais c'est vraiment la pièce rapportée, je ne trouve vraiment pas bon acteur, en fait. Je le trouve très, très très limité en fait, même dans sa posture, dans son jeu et tout. Et j'ai l'impression que c'est ce qui empêche peut-être aussi un peu le personnage de vraiment décoller, en fait.
C'est pas son métier.
Moi, je le trouve crédible, c'est ça, en fait. Oui, encore une fois, on l'a dit dans le précédent épisode, il y a quelque chose de ridicule dans sa posture, dans sa façon d'être, mais en même temps, à aucun moment, je ne doute que ce personnage existe quand je vois la série.
Allez, c'est l'heure de quitter les coulisses et de conclure cet épisode. Mais on n'en a pas terminé pour autant. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier chapitre et on y parlera de quoi ?
Du spoiler.
Ouais, du spoiler de l'épisode final qui a quand même été très, très... Enfin, on avait parlé de Game of Thrones et, ouais, du fait comment ça avait été quand même mal reçu, mais les Sopranos...
Ça a été d'un tout autre niveau.
Voilà, ouais. Ça a été ça aussi à l'époque.
Voilà, on parlera de ce dernier épisode. On va voir qu'il a fait effectivement couler beaucoup d'encre. Et puis, on abordera aussi la suite, parce que si la série est terminée, David Chase n'en a pas encore terminé avec ses histoires de mafiosi. On va voir tout ça la semaine prochaine. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le troisième épisode de cette collection.
Merci Clémence.
Merci Clémence.
We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve donc mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Sopranos. À très vite.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.